rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous, bienvenue dans le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne, l'émission qui vous transporte dans l'univers fascinant de la littérature et du cinéma. Préparez-vous à découvrir des récits captivants et passionnants, avec aujourd'hui des histoires pleines de mystères, de monstres, mais aussi d'émouvantes histoires d'amour. Que vous soyez amateur de frissons ou de romantisme, ou simplement curieux de la littérature, cette émission est faite pour vous. On accueille donc Amy, qui va nous parler de l'invisible Madame Orwell, d'Anna Funder, et de le roman de Marceau Miller, du mystérieux Marceau Miller. Nous accueillons aussi Willy, pour la parution en Blu-ray DVD du film Alien Romulus, de Fede Alvarez. Puis Aurore nous présentera la novella La fierté de la mouche, de Iti Lisboa. Pour ma part, je vous recommanderai deux romans, À l'ombre de Winnicott, de Christian Niemiec et Ludovic Manchette, et L'Italien, d'Arturo Pérez Reverté. Et commençons, sans attendre, avec l'histoire de la femme qui se cache derrière l'auteur du mythique 1984, George Orwell.
Effectivement, c'est un livre qui m'a beaucoup interpellée, parce que bon, je suis acquéreuse de livres en anglais, et ça m'a permis de découvrir ce nouveau pan de la vie de George Orwell à l'occasion des 75 ans de son décès. Et je me suis intéressée à ce roman car il éclaire, je trouve, la création littéraire par le regard porté sur son épouse méconnue et pourtant si essentielle à son œuvre. En effet, l'invisible Madame Orwell d'Anna Funder, que vous pouvez emprunter à la bibliothèque Morichon, s'intéresse à Aileen, alors O'Shaughnessy, l'épouse donc de George Orwell. Et dans son livre, Anna Funder explore la vie d'Hélène, dont le soutien fut crucial pendant près d'une décennie, en particulier durant la guerre d'Espagne. Hélène a non seulement dactylographié les manuscrits de son mari, mais lui a aussi apporté un soutien tant financier qu'émotionnel. Au travers de lettres et autres documents, Funder dresse un portrait riche et nuancé d'Hélène, intégrant des éléments de fiction pour combler les zones d'ombre de son histoire. Plutôt qu'une simple biographie, cet ouvrage soulève une question percutante. Comment a-t-on pu faire disparaître l'implication intellectuelle et la création littéraire d'une femme ? Alors, il examine les dynamiques de pouvoir au sein du couple, révélant comment la renommée d'Orwell a souvent éclipsé les contributions d'Aileen. George Orwell, une figure emblématique de la littérature, était liée à cette poétesse d'avant-garde au talent incontestable. Elle avait croisé donc le chemin d'Eric Arthur Blair, qui prendra plus tard le nom de George Orwell, auteur majeur de 1984 et de La ferme des animaux. Leur rencontre a eu lieu en 1945, suivie d'un mariage en 1946. Cependant, après cela, bizarrement, elle s'efface peu à peu du monde littéraire. Cette femme érudite, diplômée en psychologie, se transforme en femme au foyer. Orwell craignait-il que ses lecteurs ne découvrent l'influence qu'elle avait sur son œuvre ? Par exemple, Anna Funder a cherché Aileen grâce à un logiciel dans le récit « Hommage à la Catalogne » 1938. Et l'expression « ma femme » a été citée 37 fois, mais pas une seule fois George Orwell ne l'a nommée clairement. De même, lorsqu'Aileen a écrit un poème intitulé « À la fin du siècle », donc fin du siècle 1984, 15 ans avant que son mari ne publie son fameux ouvrage 1984. Voilà, cela paraît assez étrange, enfin, ça pose en tout cas un doute. Et c'est là où il est impossible de certifier tout du moins complètement la contribution d'Aileen dans les écrits de George Orwell, mais voilà, le doute demeure. L'approche originale de Funder mêle en réalité imagination, offre une nouvelle vision captivante sur la vie d'Orwell et souligne le rôle trop souvent sous-estimé des femmes en arrière-plan des figures historiques. Ce livre invite à une profonde réflexion sur la mémoire et la reconnaissance, et même si néanmoins vous souhaitez vous replonger malgré tout dans l'univers littéraire d'Orwell, de George Orwell, alors monsieur ou madame, en version originale, vous pouvez les retrouver à la bibliothèque Saint-Corneille, donc en anglais.
Merci Amy. Alors, moi je vais vous parler d'un roman, À l'ombre de Winnicott, de Christian Niemiec et Ludovic Manchette. Ces deux auteurs sont traducteurs de dialogues de films américains. Ils écrivent toujours ensemble et ils avaient eu un énorme succès avec Alabama 1963. À chaque roman, ils changent de registre et là, ils nous invitent à plonger dans une ambiance gothique. On est en 1934, dans le Sussex, à Winnicott Hold, dans un manoir. Le propriétaire est Archibald, archéologue passionné qui s'absente souvent, laissant seul, enfin avec l'ensemble de leur domestique, sa femme, Lucy Montgomery, et leur fils George, 10 ans, qui est aveugle. Ce dernier est très intelligent, mais il lui faut quelqu'un pour s'occuper de son instruction, son ancienne préceptrice étant partie. Or, il est difficile de trouver une préceptrice dans ce coin perdu. C'est Viviane Lombard, une Française, qui va se proposer. Elle n'a pas sa langue dans sa poche et choque d'entrée de jeu la maîtresse de maison et le majordome par son audace et son originalité, mais il n'y a qu'elle pour accepter le poste, donc il l'engage. Il faut s'adapter à la vie dans ce manoir. Et qui dit manoir anglais dit porte qui grince, meubles qui bougent. Et oui, ce manoir est hanté. Et chaque habitant va le découvrir peu à peu. On est dans un huis clos, grand espace. Une grande demeure entourée d'un grand parc où des phénomènes étranges se multiplient. Ils intriguent, peuvent faire froid dans le dos. Et le lecteur est un peu dans la position du personnage aveugle. Il n'y a pas tant de descriptions visuelles que sensorielles, le plus souvent même auditives. Tout est distillé progressivement, car le roman prend son temps. Il joue avec le lecteur, il fait monter la tension, la peur. Mais c'est moins le côté fantastique qui intéresse les auteurs que la relation spéciale qui s'instaure entre la préceptrice et Georges. Viviane permet à l'enfant de s'épanouir, de prendre confiance en lui et d'échapper à la surprotection étouffante et surtout limitante de sa mère. Ils ont ensemble des discussions non seulement profondes mais inattendues, pleines d'esprit et surtout gorgées d'humour, un humour très british. Et au fur et à mesure que le récit avance, cet humour va imprégner et surplomber tout le roman. Ainsi, plus on s'habitue au manoir et aux domestiques qui lui donnent vie, plus on rit de leurs aventures, mes aventures, avec un comique de situation vraiment irrésistible. J'ai eu pas mal de fou rire en lisant ce livre. Les auteurs s'inspirent de la nouvelle « La tour d'écrou » d'Henry James, mais au-delà, ils prennent le parti de jouer avec le genre du roman gothique, tout en se revendiquant d'un humour à la Feydeau ou à la Guitry. Ils réussissent remarquablement à créer une atmosphère à l'Agatha Christie, et on pense aussi à Downton Abbey, et même à Tintin avec les bijoux de la Castafiore. C'est plein de références cocasses, c'est savoureux. Et j'ajouterai que si vous aimez l'histoire de fantômes, ne manquez pas actuellement sur les écrans le dernier film de Steven Soderbergh, Présence, un thriller fantastique dans lequel une famille découvre qu'elle n'est pas seule dans la maison qu'elle vient d'acheter. Et pour continuer dans le cinéma américain, Willy va nous parler du tout dernier opus de la saga Alien.
Et oui, encore un Alien. Donc c'est le 7e Alien Romulus du réalisateur Fede Alvarez, qui nous avait déjà produit un petit film excellent qui s'appelle Don't Breathe, la maison des ténèbres, et qui ressemble étrangement à cet Alien. Donc c'est le 7e film d'une franchise qui appartient désormais à Disney, si je ne me trompe pas. Le premier film datait de 79, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors moi j'avais essayé de le voir à l'époque, mais j'étais un petit peu jeune, j'étais sans mon père, donc je n'ai pas pu rentrer dans la salle, j'étais très déçu. Bon, je l'ai vu bien des années après en vidéo, etc. et je m'en suis régalé. Et donc ce film, à mon sens, bon, on attend toujours le pire hein, quand un nouvel Alien sort, on dit qu'est-ce qu'ils vont pouvoir encore nous inventer. Eh bien ils y arrivent quand même, ils arrivent encore à faire des choses nouvelles. Et donc pour moi c'est une excellente surprise ce film. Malgré une fin un petit peu télégraphiée, on va dire. Bon, c'est surtout qu'on retrouve un peu tout le bestiaire des films, pour tous ceux qui connaissent ça par cœur. Vous avez le facehugger, hein, cette méduse qui se colle à votre visage là, pour pondre des œufs à l'intérieur de votre corps. Le chestbuster, une espèce de truc là, qui jaillit de la poitrine pour, après une courte gestation. Le xénomorphe, alors ça c'est la créature extraterrestre aux dents longues emblématique de la saga.
Ça me dégoûte, Willy, ce que tu racontes.
Bon allez, je fais court. Le vaisseau spatial fantôme, ça c'est mieux. La planète inhospitalière, la compagnie Weyland-Yutani, hein, toujours à l'affût de coups tordus pour récupérer la créature et l'exploiter à des fins militaires ou autres, enfin commerciales, j'en passe, c'était meilleur. Mais là, la grande nouveauté de ce film, c'est qu'on... Alors ça c'est très à la mode, surtout dans le dernier Star Wars, là, Skeleton Crew, là, la série, c'est qu'une fois de plus, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on prend une bande d'adolescents ou d'adolescents ou de grands ados, je ne sais pas comment on appelle ça, et puis on les confronte à l'horreur. Hein, parce que ce groupe hétéroclite là, va chercher à fuir un premier enfer, qui est une sorte de planète terraformée sur laquelle ils sont plus ou moins exploités, et puis ils vont rejoindre l'épave d'un vaisseau qui va s'avérer évidemment bien pire pour eux. Alors bon, ce film, ça s'inscrit totalement dans la tradition du film d'horreur hollywoodien tel qu'on les connaît, hein, ce qu'on appelle en américain ou en anglais le slasher movie ou le survival movie. C'est une espèce de sous-genre du film fantastique qui met en scène toujours le même prototype de personnage, un tueur psychopathe, une créature extraterrestre ou ce qu'ils appellent eux un boogeyman. Il y a même un film d'ailleurs qui s'appelle comme ça, je crois, qui va s'en prendre donc à un groupe d'individus précis. Donc c'est souvent des adolescents. Alors allez savoir pourquoi, on ne sait pas. Donc il y a des films comme ça, c'est Halloween, Vendredi 13, Les Griffes de la Nuit, Chucky, Massacre à la tronçonneuse, Le Monstre du Train, Scream. Enfin tout ça, c'est typique de ce genre de film. Alors en l'espèce, là, tous les clichés, les stéréotypes et autres du genre sont respectés. Donc, alors vous avez évidemment la créature qui ressuscite 10 minutes avant la fin. Ça, c'est un grand classique du film américain. Les protagonistes qui vont disparaître les uns après les autres en fonction de leur importance. Avant la grande confrontation avec le grand méchant, ou le monstre en l'occurrence, les scènes de meurtre violentes et ritualisées, bon, je passe sur tout ça. Et puis toujours, ça c'est extraordinaire dans les films américains, les films d'action, les films, c'est toujours le moment de doute du héros. Ça c'est typique des films catastrophes des années 80, il y a toujours un moment où le héros se dit, mais enfin mon Dieu, que fais-je? Puis donc tout à coup, bon, il reprend ses esprits quand même et il va foncer. Et là, typiquement, on a ça aussi dans ce film. Donc c'est toujours drôle parce qu'en fait, on se dit, mais on va quand même pas échapper à ça. Non, non, on n'y échappe pas parce que c'est jusqu'au bout, ils respectent tous les codes. Et puis enfin, on a ce dernier code, et j'en finirai par là, c'est celui de ce qu'on appelle la dernière survivante, la Final Girl. Alors ça, c'est extraordinaire. Alors la meilleure Final Girl, à mon sens, c'est par exemple Sarah Connor dans Terminator. Et puis on a Ellen Ripley évidemment dans le premier Alien, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc ça, c'est vraiment un archétype qui a été théorisé par une universitaire américaine, alors je fais court, hein, qui s'appelle, c'était dans les années 90, elle s'appelle Carol J. Clover, et donc elle a fait un livre, mais qui n'a pas été traduit en français malheureusement, où elle montre notamment que dans ce genre de film, donc ces slasher movies, ces films d'horreur, eh bien en fait, on ne s'identifie pas du tout au meurtrier, mais bien à la victime et son but ultime, la survie. Donc la Final Girl, c'est la seule qui va rester en vie pour éradiquer le mal et faire le récit en fait des événements qu'elle a pu traverser. Alors ça, vous regardez, quantité de films d'horreur, à chaque fois, ça se termine toujours comme ça. Bizarre, c'est extraordinaire. Alors ça, c'est vraiment une étude fondamentale. Donc je vais vous laisser deviner si ce film, Alien Romulus, se termine de cette façon ou pas. Voilà, et j'en termine par là.
Merci, bon, on regardera, on verra.
C'est intéressant, je trouve, de reprendre un peu tous les codes scénaristiques qu'on trouve dans des romans ou des films de genre, du coup. Parce qu'effectivement, c'est relativement répétitif. Puis les Américains, ils aiment bien avoir des recettes magiques qui fonctionnent, quoi.
Bah oui, surtout. Bah oui, puis en fait, bon, ça... Il n'y a pas vraiment ça se renouvelle sans arrêt, mais en fait, il y a quand même, globalement, des trames qui restent les mêmes.
Place à la musique maintenant. Je vous propose d'écouter le groupe américain Linkin Park, dont le génial album From Zero marque le grand retour depuis la disparition de Chester Bennington. Le groupe emblématique du new metal, un sous-genre mélangeant rock alternatif, électro et hip-hop, s'est reformé avec un nouveau batteur et une nouvelle chanteuse, Emily Armstrong. From Zero, comme une renaissance, un nouveau départ, comprend 11 titres, dont le bien tonique The Emptiness Machine.
Blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine.
Alors, je vais vous parler d'un livre assez énigmatique, encore une fois, qui est donc le roman de Marceau Miller, par Marceau Miller. Alors, ce roman que vous pouvez retrouver, pour l'instant, actuellement, dans les nouveautés en livre numérique proposées sur le site de la médiathèque départementale de l'Oise, suscite un vif débat, car en seulement 2 semaines, il a su captiver l'attention des lecteurs et des critiques. En à peine donc 2 semaines, il s'est vendu à plus de 10 000 exemplaires en France, attirant l'attention internationale avec des droits acquis par plusieurs pays. Donc la maison d'édition La Martinière joue sur leur mystère entourant l'auteur pour susciter l'intérêt des lecteurs. L'histoire suit Marceau Miller, un écrivain dont la mort dans les Alpes soulève des questions sur la véritable nature de l'incident. Sa femme, convaincue qu'il ne s'agit pas d'un simple accident, s'efforce de découvrir la vérité à travers 400 pages riches en suspense. Les spéculations encore aujourd'hui vont bon train. Alors je me suis moi-même lancée dans cette enquête. Il me semblait clairement que l'auteur pouvait être simplement une intelligence artificielle, mais cette hypothèse a été démentie par la maison d'édition. Pour le moment, ce que je peux en dire, c'est que l'auteur Marceau Miller n'apparaît pas sur la liste des auteurs du site de la maison d'édition et que beaucoup d'hypothèses concourent actuellement. Alors, malgré des spéculations sur une éventuelle connexion avec Joël Dicker, des indices laissent à penser que l'écrivain a déjà publié sous un autre nom et n'est pas basé à Paris, écartant ainsi l'idée d'une création par intelligence artificielle. Nicolas Mathieu, auteur du roman primé « Leurs enfants après eux », est né en 1978. Il est souvent mentionné dans les discussions, entourant l'identité d'un auteur mystérieux, possédant également une expérience de scénariste avec son œuvre « Aux animaux, la guerre », adaptée en série. Un autre nom fréquemment cité, celui de Samuel Delage, scénariste et écrivain de romans policiers, également né en France, en 1978, ayant écrit des livres notables comme Arcane Médicis et Code Salamandre. Les théories sur l'identité de l'auteur de donc, le roman de Marceau Miller abondent, mais restent assez conjecturales jusqu'à une révélation officielle. Alors, avis aux enquêteurs et enquêtrices en herbe pour tenter de percer ce mystère. Et je tenais à dire merci d'avance pour celles et ceux qui voudraient me faire part de leurs hypothèses à la suite de cette émission. Donc, en tout cas, pour l'instant, vraiment, j'ai pas réussi encore à percer le mystère, mais n'hésitez pas, voilà, à nous en faire part.
Et le roman, t'as aimé ? Il est bien ?
Le roman, j'ai beaucoup aimé, mais le fait de ne pas savoir l'auteur, enfin qui était l'auteur et un petit peu son histoire, ça m'a un peu perturbée quand même. Et surtout les recherches, là, j'ai passé plus de 2 semaines à rechercher, effectivement. Pour l'instant, c'est...
Ah bah, le but, c'est qu'on ne trouve pas, je pense, quand même.
Et la maison d'édition, vraiment, mais c'est au compte-goutte. Elle donne vraiment quelques indices au compte-goutte. Et à chaque fois que j'ai trouvé un potentiel auteur qui pouvait correspondre, finalement, la maison d'édition, après, revenait sur un autre indice. Et donc, ça permettait, effectivement, de revoir à zéro, justement, l'enquête depuis le début.
Avis aux auditeurs pour aider notre bibliothèque perturbée par sa lecture. Voilà, l'appel est lancé.
S'il y a des hypothèses. Bon, moi je vais vous parler d'un auteur bien connu à l'inverse. Donc c'est Arturo Pérez Reverté qui a connu un grand succès avec les aventures du capitaine Alatriste et Falco. Son dernier roman s'appelle L'Italien. Il se situe en 1942. Une jeune veuve espagnole, Elena, libraire, promène son chien sur la plage d'Algésiras quand elle voit une masse noire couchée sur le sable. C'est un homme vêtu de caoutchouc, ses jambes encore dans l'eau. Il porte à la taille un couteau attaché par des lanières et 3 étranges montres au poignet. Il est gravement blessé, mais il respire encore. Sans réfléchir, elle l'emmène le naufragé chez elle au lieu d'appeler la police. Cette décision va changer sa vie. Cet homme aussi énigmatique que séduisant s'avère être un plongeur de combat italien, basé dans un bateau cachette avec son équipe. Vous devez vous dire que faisait un combattant italien en Andalousie alors que l'Espagne était un pays neutre. C'est que le port d'Algésiras était tout près du Gibraltar, joyau de la couronne britannique défendu par la marine anglaise et enclave cruciale pour la domination de la Méditerranée et de l'Afrique du Nord. Ainsi, de redoutables commandos de plongeurs italiens étaient envoyés avec leurs sous-marins attaquer les navires de la Royal Navy avec des charges explosives en utilisant des torpilles autopropulsées qui passaient inaperçues et ont longtemps préoccupé les alliés, incapables de comprendre d'où venait l'ennemi. Ces raids sous-marins, aussi astucieux que dangereux, étaient efficaces puisqu'ils ont réussi à endommager ou couler 14 bateaux entre 1942 et 1943. Pérez Reverté, qui a été reporter de guerre pendant 20 ans, décrit avec détail le fonctionnement de ce groupe italien, Et il a un grand talent pour nous faire vivre avec réalisme les attaques quasi-suicidaires de ces hommes torpilles. Il décrit aussi admirablement le climat de l'époque, fait de suspicion et de peur. D'ailleurs, notre héroïne, quand elle revoit Téséo, cet Italien à l'allure de héros antique, à la terrasse d'un port sur, la terrasse d'un café sur le port, elle s'attache à lui. Mais c'est risqué car l'Espagne fourmille d'espions. Si elle se montre trop curieuse, elle deviendra gênante et donc élément à éliminer. Or, elle va rapidement se trouver mêlée à la préparation de ces opérations de sabotage et s'exposer à des risques insensés. Quelles sont ses motivations ? L'amour qu'elle ressent comme une évidence pour le Vénitien au sourire lumineux ? Le goût de l'aventure et du défi ? Ou le désir de venger son mari ? On est emporté par ce voyage dans le temps, à ressentir le frisson de l'inconnu et s'émerveiller de cette histoire de bravoure et d'honneur. Une histoire de héros oubliés qui explore en même temps la solitude et le destin des héros ordinaires. L'auteur mêle rigueur historique et tension dramatique, avec une construction narrative très intéressante. Il utilise une double narration et temporalité. D'un côté, les faits des années 40 sont décrits à la troisième personne. De l'autre, des chapitres mettent en scène l'enquête du journaliste, écrivain, narrateur, dans les années 80, sur les événements à travers des témoignages, dont celui d'Elena, désormais libraire à Venise, et du coéquipier de Téséo, ainsi que des documents d'archives ou de presse. C'est un roman qui séduira autant les passionnés d'histoire que les adeptes de romans d'espionnage et même les amateurs d'histoires d'amour émouvantes. C'est un régal de lecture.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Merci beaucoup Anne. Et d'ailleurs, en parlant d'histoire d'amour, moi j'ai eu envie de vous présenter le livre qui s'appelle La fierté de la mouche. Alors ce n'est pas un livre très récent puisqu'il a été publié il y a plus de 20 ans maintenant aux éditions de L'Harmattan. Mais j'ai voulu en parler parce que j'ai rencontré son autrice très récemment. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus, mais je trouve que ce livre n'a rien perdu de sa fraîcheur, malgré le fait qu'il ait été publié il y a un moment, tout comme son autrice d'ailleurs. En premier lieu, La fierté de la mouche a été publiée au Brésil, chez grosso modo l'équivalent de Gallimard sur place, et ensuite il a trouvé sa place dans les rayonnages français. Si Hélène, l'autrice, n'a rien publié depuis, c'est parce qu'entre-temps, elle a eu une vie de femme et de maman bien remplie. Mais aujourd'hui, l'autrice renoue avec l'écriture et justement, elle nous a accueillis dans sa commune, dans le Perche, elle habite dans le Perche. C'était très mignon, très perdu, mais vraiment joli. Et on a pu, avec d'autres auteurs, voilà, participer à une semaine de résidence où elle nous a offert le gîte, tout simplement, nous a accueillis. Et j'en ai profité pour découvrir cette novella fine et drôle qu'est La fierté de la mouche, qu'elle avait donc écrite il y a un moment. Dès la première page, on comprend l'enjeu de ce récit et on sent tout de suite qu'on ne va pas s'ennuyer. Notre héroïne de 16 ans, brésilienne comme son autrice, vient de se faire larguer. Elle jure alors par tous les moyens, elle y passera sa vie s'il le faut, mais elle apprendra tous les subterfuges de l'amour pour reconquérir cet amour de jeunesse et lui infliger cette même douleur de rupture brutale à son tour. À la star de son autrice, notre héroïne voyage et traverse les continents, nous immergeant subtilement dans les traditions d'autres contrées, du Brésil, en France et même jusqu'au Japon. Nous la suivons avec délectation dans son apprentissage de l'amour, jusqu'à ce que le moment de la vengeance ait enfin sonné. C'est un roman court qui pourrait presque se lire d'une traite, écrit par une fine plume, précise, cinglante, juste et drôle. J'ajoute d'ailleurs que si la version française, si sur la version française c'est indiqué traduit du brésilien, il faut savoir que c'est Hélène, l'autrice elle-même, qui l'a réécrit en français, car c'est une langue qu'elle maîtrise parfaitement. Et aujourd'hui, elle écrit son nouveau roman en français. Et si je tenais à vous en parler, eh bien, c'est parce que je trouve que l'âge d'un livre n'a que peu d'importance quand il est bon, mais aussi parce que l'autrice travaille actuellement donc sur un nouveau projet, Stay Connected. Il se pourrait bien que dans les mois à venir, E.T. Lisbonne nous ravisse de nouveau de sa plume délicate.
Merci beaucoup, Aurore. Demain, samedi 1er mars, à 17h, vous avez rendez-vous avec les Petits Socratiques, un café philo, sur le thème « Où habite l'artiste ?». Une discussion sur le thème de l'art et de la tristesse dans la création, et discussions et débats philosophiques animés par Atta Illa Kaouja. Et n'oubliez pas que du 14 au 30 mars, le Festival Parole, Festival de la langue française du Valois au Compiénois, pour sa 3e édition, vous proposera 36 événements d'humour, de chansons, de rencontres littéraires, de débats sur la littérature contemporaine et des contes. La Bibliothèque de Compiègne accueillera notamment Antoine Compagnon, Pierre Assouline, Carole Martinez, Carole Trébor, Nicolas Michel, Maureen Desmailles et d'autres. Vous retrouverez tout le programme sur notre site internet ainsi que les titres dont nous avons parlé aujourd'hui dans notre émission. Le prochain rendez-vous culture à la bibliothèque sera le vendredi 28 mars à 18h et sur votre radio préférée Graphite le vendredi 21 mars toujours à 18h. Nous vous souhaitons un très bon week-end.
Bon week-end, merci Anne.